Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 17, Daf Yud Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Me'en ha'olam haba, une partie des bienfaits du olam haba, c'est-à-dire qu'ils n'ont manqué de rien pendant leur vie. Elohen, ces trois sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, au sujet d'Abraham, dirtiv ve, le pasuk dit, Bakol, Hashem l'avait béni pour tout. Yitzhak, au sujet de Yitzhak, dirtiv ve, le pasuk dit, Mikol, je mangeais de tout, et rien ne m'a manqué. Yaakov, au sujet de Yaakov, dirtiv ve, il est écrit, Kol, j'ai tout ce qui m'est nécessaire. Shlosha lo shalat behen yitzhara, trois tzadikim, le yitzhara n'a plus eu d'emprise sur eux, comme ils s'étaient efforcés pendant une grande partie de leur vie de s'écarter du mal et de tout ce qui est contraire à la volonté divine, Hachem les a aidés à ce que les Tzara n'aient plus d'emprise sur eux. Elohen, ce sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, dirtiv ve'u, comme le verset dit à leur sujet, Bakol, Mikol, Kol, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucune entrave dans leur service envers Hachem. Bien sombré, mais certains ajoutent, Af David, que David aussi, les Tzara n'a plus eu d'emprise sur lui, dirtiv, comme le pasuk dit, Velibi Khalal Bekirbi, il y a un creux dans mon cœur, les Tzara qui s'y trouve normalement a disparu de moi. Veidach est le premier Tana qui n'a pas mentionné David parmi ceux-là, explique ce pasuk, Tzare hu de Kamadkar, David Amelech mentionne ici ses malheurs, et c'est comme si David Amelech disait ici, que son cœur a totalement fondu, tellement il a eu de souffrance. Tanur Abanan, une braïta, dit, Shisha, six tzadikim, lo shalat behen malach hamavet, l'ange de la mort n'a pas eu d'emprise sur eux, mais c'est Hachem lui-même qui a repris leur âme, et de cette façon ils sont décédés. Ve'eluhen, et voilà ces tzadikim, Abraham, Yitzhak, ve'yaakov, et aussi Moshe, Aharon, ou Myriam. La Braïta dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous le savons, dirtiv ve'u, car il est écrit à leur sujet, Bakol, Mikol, Kol, ils n'ont manqué d'aucun honneur, et puisqu'on trouve que cet honneur a été accordé à Moshe, Aaron et Myriam, ils sont décédés par Hachem directement, sans et pas par l'ange de la mort, donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, il ne leur a pas manqué non plus cela. Moshe, Aaron ou Myriam, d'où savons-nous pour eux qu'ils sont morts de cette façon? Dirtiv ve'u, car la Torah dit à leur sujet, Alpi Hashem, c'est comme si à la suite d'un baiser divin, leur âme avait quitté leur corps et s'était rattachée au monde céleste. La Gemara demande, Veha Myriam, pourtant au sujet de Myriam, l'octive, le pasuk ne dit pas explicitement les mots Alpi Hashem, et d'où savons-nous qu'elle est aussi décédée de cette façon? Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar a répondu, Myriam Nami, Myriam également, Binshika Meta, est décédée de cette façon qui est comparable à un baiser divin. De Atia, car on l'apprend du fait que les mêmes termes ont été employés pour son décès à elle, il est écrit, Vatikaver Sham Myriam, elle a été là-bas enterrée Myriam. Et pour Moshe, Sham mi Moshe, il est également écrit Vayamat Sham Moshe, Moshe est décédé là-bas. La Gemara demande, Umi Pnema, et pour quelle raison l'apprenons-nous de façon indirecte, et Lone Emarba, il n'est pas dit explicitement au sujet de Myriam, Alpi Hashem. La Gemara répond, Shegnai Hadavar Lomar, il ne sied pas d'employer une telle expression par rapport à une femme. Tanur Rabbanan, les sages nous ont enseigné dans une braïta, Shiv'a set tzadikim, lo shalat behen rima vetolea, n'ont eu d'emprise sur leur corps après leur décès, ni putréfaction, ni ver d'aucune sorte. Ve'eluhen et ces tzadikim sont Abraham, Yitzhak, ve'yaakov, Moshe, Aharon, ou Myriam, ou Binyamin ben Yaakov, et Binyamin le fils de Yaakov notre père. Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous savons à leur sujet, dirtiv be'u, car le pasuk a dit, Bakol, Mikol, Kol, et comme nous avions vu avant, Nous apprenons de là que leur mort était par Hachem directement et pas par le Malach Hamavet. Et comme la putréfaction et la vermine viennent par la suite d'une goutte faite tomber par l'ange de la mort, par conséquent, eux qui ne sont pas morts avec le Malach Hamavet n'ont pas eu de vermine d'aucune sorte. Moshe Aaron ou Myriam, Moshe Aaron et Myriam également, d'Ichtiv Be'u, comme à leur sujet, la Torah dit, Alpi Hashem, qu'ils sont morts par Hashem directement et pas par le Malach Hamavet. Par conséquent, ils n'ont pas non plus eu de vermine qui vient par la suite d'une mort causée par le Malach Hamavet. Binyamin ben Yaakov, d'Ichtiv, il est écrit à son sujet, Ul Binyamin Amar, et Moshe Rabbeinu a dit au sujet de Binyamin, Yedid Hashem, il est le bien-aimé de Hashem, Ishkon Lavetach Alav, son corps restera intouché par la vermine, bien qu'il soit mort par le Malach Hamavet, l'affection qu'Hashem avait envers lui l'a protégé de la vermine. Veillez chambri, mais certains disent, Af David, David Amalek aussi, la vermine n'a pas eu d'emprise sur lui, d'Ichtiv, comme le pasuk dit, Af Besari Ishkon Lavetach, même mon corps restera tranquille dans la tombe, c'est-à-dire sans vermine. Veidach est le Tana précédent qui n'a pas mentionné David parmi ceux-là. Haou explique que ce verset, Rachamehu de Kabaï, c'est une prière que David Ameler faisait. Mais on n'a pas de preuve que les choses se sont ainsi passées. Tanou Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta, Arba'a, quatre tzadikim, Metu sont décédés, Be'etio shel Nachash, à cause du conseil que le premier serpent a donné à Chava, et a causé sa faute et celle d'Adam Arishon, ce qui a entraîné le décret que tout être vivant doit décéder, et ces quatre tzadikim ne sont décédés qu'à cause de ce décret, et n'avaient pas d'autres péchés qui justifiaient leur décès. Et ces tzadikim sont Binyamin ben Yaakov, Binyamin le fils de Yaakov Avinu, Amram Avi Moshe, et Amram le père de Moshe Rabbeinu, Yishai Avi David, et Yishai le père de David Amelech, Chilav ben David, et Chilav le fils de David Amelech. Vechulhu Gmara, et pour tous, nous le savons que par tradition, le Bar Mi-Yishai Avi David, à part pour Yishai le père de David Amelech, Dimfaresh Bekra, où nous le savons par un pasouk. Dichtiv, comme il est écrit, Vet Amasa Sam Avshalom, et Amasa Avshalom l'a placé, Tachat Yoav, à la place de Yoav, à la Tzava, en tête de l'armée, V'Amasa et Amasa étaient Ben Ish, le fils d'un homme, Ushmo Yitra à Israéli, ils appelaient Yitra l'Israélite, Asherba El Avigail, qui s'est marié avec Abigail. Dans nos livres, il est écrit Abigail. Dans le Navi, Bat Nachash, la fille de Nachash, Achot Tzeruya, la sœur de Tzeruya, M. Yoav, qui était la mère de Yoav. La Gemara demande, Vechi Bat Nachash, est-ce que Abigail était la fille de quelqu'un qui s'appelait Nachash? Vehalo Bat Yishai, pourtant elle était la fille de Yishai. Dirtiv, car il est écrit dans Divrei Hayamim au sujet des sœurs de David Ameler et de ses frères, Ve'achyotehem, et leurs sœurs étaient Tzruya Va'avigail. Et dans les versets précédents, il est mentionné là-bas que leur père était Yishai. Et là, mais il faut donc expliquer le pasouk qui parlait de Amasa, où il est écrit Bat Nachash, que Avigail était Bat Mi Shemet Ve'etioshen Nachash, la fille de Yishai, qui n'est décédé que par la suite du décret de mort envers tout être vivant, conséquence de la faute d'Adam Arishon, qui y a été poussé par le serpent. Hadran Allah Hashutafin.
Nous commençons l'étude du second Pérek, où nous traiterons le sujet, à savoir quelles sont les précautions qu'une personne doit prendre pour ne pas gêner ses voisins. Nous tenons cependant à préciser qu'il ne s'agit pas ici d'une personne qui endommage délibérément une autre personne ou sa propriété. Dans ce cas, cette personne serait considérée comme endommageur. Il devra donc payer des dédommagements. Mais ici, il s'agit d'une personne qui utilise sa propriété et c'est cela qui gêne ses voisins. Alors, comme l'explique le Ramban dans son recueil concernant Dina Degarmi, puisqu'il est impossible de défendre à une personne d'utiliser sa propriété comme il l'entend, cette personne donc ne sera pas considérée comme endommageur. Il ne devra donc pas payer de dédommagement si des dommages sont causés à autrui. Cependant, les Chachamim ont fixé des limites, donc des précautions, pour faire régner la paix entre les voisins. Nous verrons donc ici dans ce chapitre dans quelle mesure une personne pourra empêcher à son voisin d'utiliser sa propriété d'une manière qui le gêne et dans quelle mesure il ne pourra pas l'empêcher. Alors la Mishnah dit « Lo yarpor adam bor samuch le boro shel chavero » Un homme n'aura pas le droit de creuser un puits à proximité du puits de son voisin. « Velo shiach » Il n'aura pas non plus le droit de creuser une fosse. « Velo mehara » Et ni une grotte. « Velo amatamaim » Et ni un cours d'eau qui sert à irriguer les champs. « Velo nivrech et kovsim » Et ni un trou qui servira à y laisser tremper le linge avec des détergents, comme ils le faisaient à l'époque. Ils utilisaient en effet des excréments de chiens. Et là, imken irchik, nous lisons ici selon le Bach, mi kotlo shel chavero, à moins de s'éloigner du mur de son voisin, shlosha tfachim, d'une distance de 3 tfachim, donc environ 30 cm. Vesad besid, il devra en plus enduire les parois de son trou ou de son puits de chaux. Et cela parce que le fait de creuser à proximité du puits de son voisin fragilisera les parois de son puits. Et comme l'explique le Drisha dans Choshen Mishpat Siman Kufnunhe Sifkatan Yutret, l'eau dont ces trous seront remplis va s'infiltrer par cette paroi fragilisée et le puits du voisin s'effondrera. C'est pour cela donc qu'il faudra d'abord s'éloigner d'une distance de 3 tfachim et en plus d'enduire les parois de ce trou avec de la chaux. La Gemara expliquera pourquoi est-ce que la Mishnah nous dit qu'il faut s'éloigner du mur de son voisin alors qu'on parlait du puits du voisin. Donc la Mishnah aurait dû dire « Elaim ken irchik mi boro shel chavero » c'est-à-dire « à moins de s'éloigner du puits de son voisin ». « Umar rikim et hagefet » il faudra aussi éloigner les déchets provenant de la pression d'olive « ve et hazevel » et le fumier « ve et hamelach » et le sel « ve et hasid » et les pierres à chaud qui ont été brûlées dans le four mais qui n'ont pas encore été trempées dans de l'eau « ve et haslaim » et des pierres de silex. Nous lisons ici selon le Bach, mi kotel chavero shloshat fachim. Il faut donc éloigner ces choses-là du mur de son voisin d'une distance de 3 tfachim, donc environ 30 cm, ve sad besid, ou bien il devra enduire le mur de son voisin de chaux. Et cela parce que les produits mentionnés plus haut dégagent de la chaleur qui abîme le mur de son voisin. Il s'agit ici, comme le précise le Rashi, de murs en briques, donc en terre séchée, qui s'abîme par la chaleur. Marchikin et Azraim, il faut éloigner les semences, v'et amachrisha, et la charrue, v'et meraglaim, et l'urine, minakotel, du mur de son voisin, shloshat tfachim, d'une distance de 3 tfachim. Et cela, parce que ces graines qui prendront racine auprès du mur de son voisin vont ameublir la terre tout autour de ce mur, ou bien le fait de labourer la terre à côté du mur de son voisin va ameublir cette terre. Donc les fondations de ce mur seront fragilisées, ce qui causera au mur de s'écrouler. Comme le Drisha le précise dans Siman Kufnunhe, il faudra éloigner les semences et la charrue du mur de son voisin, même s'il s'agit d'un mur de pierre. L'urine va causer aux briques en terre séchée de se désintégrer. À la longue, le mur s'écroulera. Umar Rikin et Arechaim, il faut éloigner le moulin du mur de son voisin, d'une distance de Shlosha Minashchav, de 3 tfachim de la pierre inférieure, qui est immobile, qui est donc couchée par terre, Shehen Arba'a Minarechev, ce qui fait une distance de 4 tfachim de la pierre supérieure, qui chevauche donc sur la pierre inférieure, et dont le rayon est d'un tefar, soit 10 cm de moins que la pierre inférieure. Ve'et Hatanur, il faudra éloigner aussi le four du mur de son voisin, d'une distance de Shlosha Minakalia, 3 tfachim, soit 30 cm de la partie inférieure de sa base, Shehen Arba'a Minasafa, ce qui fait une distance de 4 tfachim de la partie supérieure de la base de ce four. En effet, le four à l'époque était une espèce de casserole renversée en argile que l'on posait sur une base de mortier pour l'isoler du sol. La partie inférieure de cette base dépassait de la partie supérieure d'un tefar, soit de 10 cm. Donc lorsqu'on s'éloigne de la partie inférieure de la base d'une distance de 3 tfachim, on s'éloigne de la partie supérieure de cette base d'une distance de 4 tfachim. Nous tournons la page à Daf Yud Zayin Amud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Yud Zayin Amud Bet. Alors, la Gemara dit, Patach Bebor Umsayem. La Mishnah commence par parler d'un puits, Umsayem Bekotel, et conclut son enseignement en parlant du mur de son voisin. C'est-à-dire, la Mishnah commence par dire, il est interdit de creuser un trou à proximité du puits de son voisin. Puis elle termine cet enseignement qu'il faut s'éloigner du mur de son voisin pour creuser d'une distance de 3 tfachim. La Mishnah aurait dû conclure en disant qu'il faut s'éloigner du puits de son voisin d'une distance de 3 tfachim. Alors nous sautons la parenthèse selon le Maharshal. Alors la Gemara répond Amar Abaye Vitema Rav Yehuda Mikotel Boroshaninu. La Mishnah nous enseigne qu'il faut s'éloigner de la paroi du puits de son voisin d'une distance de 3 tfachim. En fait, donc, quand la Mishnah a employé le terme de Kotel, elle voulait parler de la paroi du puits de son voisin. Alors la Gemara demande Velitne Elaim Ken Irchik Mi Borosh El Chavero Shlosha Tfachim. Si c'était juste pour parler de la paroi du puits de son voisin, la Mishnah aurait pu se suffire de nous enseigner que cette personne n'aura pas le droit de creuser de puits à moins de s'être éloigné du puits de son voisin d'une distance de 3 Tfachim. En d'autres termes, qu'est-ce que nous avons gagné par le fait que la Mishnah a employé le terme de paroi du puits de son voisin? Parce que d'une part, il est évident que même si cette personne, donc le voisin, avait éloigné son puits de la bordure de son terrain de plus de 3 tfachim, par exemple, il s'était éloigné de la bordure de son terrain de 6 tfachim, il est évident que le deuxième voisin n'aura pas le droit de se suffire de s'éloigner uniquement d'une distance de 3 tfachim pour creuser son trou, parce qu'il se trouverait dans le domaine de son voisin. Et d'autre part, puisque la Mishnah nous parle de s'éloigner, hirchik. Il est évident que cela veut dire que cette seconde personne qui vient creuser un puits devra s'éloigner de la bordure de son terrain d'une distance de 3 tfachim, indépendamment de l'endroit où se trouve le puits du voisin. Donc finalement, qu'est-ce que la Mishnah nous a ajouté en employant l'expression de paroi du puits de son voisin? Alagma répond, Hakamash Malam, c'est cela que la Mishnah a voulu nous enseigner, de Kotel Bor Shlosha Tfachim, que l'épaisseur de la paroi d'un puits est de 3. Nous sommes Bava Batra Daf Yud Zayin Amud Bet, à la cinquième ligne du haut de la page. Nous avons entamé le sujet à savoir quelles sont les précautions qu'une personne doit prendre pour ne pas gêner ses voisins. La Mishnah avait enseigné notamment qu'il était interdit de creuser un puits à proximité du puits de son voisin. Et cela parce que le fait de creuser ainsi fragiliserait les parois du puits. Puis la Mishnah conclut en disant qu'il est interdit de creuser toutes sortes de trous à moins de s'éloigner d'une distance de 3 tfachim du mur de son voisin. Alors la question se pose, si nous parlions au début de parois de puits, pourquoi est-ce que la Mishnah change de sujet pour parler du mur du voisin? Alors la Gemara a répondu que lorsque la Mishnah parle de mur du voisin, en fait il s'agit des parois de son puits qui peuvent être aussi appelées kotel, mur. Alors la Gemara a demandé, pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de préciser qu'il faut s'éloigner des parois du puits de son voisin, puisqu'il est évident du fait que la Mishnah nous enseigne qu'il faut s'éloigner, c'est forcément de la bordure de son terrain, indépendamment de l'endroit où se trouve le puits de son voisin, c'est-à-dire indépendamment du fait si le premier voisin avait creusé son puits au bord de son terrain ou s'il s'était aussi éloigné du bord de celui-ci. Parce que s'il suffisait de laisser une distance de 3 tfachim entre les deux puits, la Mishnah aurait dû dire Elaim ken rachok mi boro shel chavero, shlosha tfachim, à moins qu'il y ait une distance de 3 tfachim entre son puits et celui de son voisin. Donc finalement, qu'est-ce que nous avons appris de cette précision de la Mishnah qui nous parle de la paroi du puits de son voisin? La Gemara a répondu que nous apprenons de là que l'épaisseur de la paroi d'un puits est de 3 tfachim. C'est-à-dire, le fait que la Mishnah a employé le terme de kotel, paroi, ce qui est superflu, cela nous enseigne que le premier a dû aussi éloigner son puits de la bordure de son terrain. Nous verrons par la suite pourquoi. Et cette distance qui sépare le puits de la bordure de son terrain est appelée la paroi de ce puits. En l'absence de toute autre indication de la part de la Mishnah, nous pouvons déduire que cette première personne a dû s'éloigner de la bordure de son terrain d'une distance de 3 tfachim. Nous comprendrons donc de là que cet éloignement que la Mishnah appelle paroi représente effectivement l'épaisseur de la paroi du puits qui est donc de 3 tfachim. En conclusion, l'éloignement entre les deux puits est non pas de 3 tfachim, donc 30 cm, mais de 6 tfachim, donc de 60 cm. Nous verrons par la suite une discussion entre des Amoraïm si cet éloignement sera partagé entre les deux voisins. Donc chacun de ces deux voisins devra éloigner son puits d'une distance de 3 tfachim de la bordure de son terrain, ou bien c'est le dernier qui est venu creuser le puits qui devra éloigner son puits de 60 cm. En tout cas donc, une chose est sûre, c'est que nous avons appris de la Mishnah, comme nous l'avons expliqué, que l'épaisseur de la paroi d'un puits est de 3 tfachim. Nafkamina, il en ressort de là, une nouvelle loi, les mekar ou memkar, concernant les transactions. Quel est Tanya, comme nous avons vu dans une braïta, haomer le chavero, celui qui dit à son prochain, bor ve kotlea ani mocher lecha, je te vends un puits avec ses parois, tsarir sheye a kotel shloshat fachim, il faut que l'épaisseur des parois du puits soit de 3 tfachim. En d'autres termes, il lui vend un périmètre de 3 tfachim autour de ce puits, en même temps que celui-ci. Itmar, il a été enseigné une discussion. Haba lismor betzad hametzar, celui qui veut se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits, alors que son voisin n'en a pas encore, ou bien faire un dépôt de déchets provenant de la pression d'olive, etc., qui pourra gêner son voisin lorsqu'il voudra construire un mur. Alors la question se pose, est-ce qu'il a le droit de le faire ou non? Abaye Amar, Abaye dit là-dessus, sommaire. Il a le droit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits, parce que son voisin n'en a pas. Verava Amar, et nos sommaires, il n'a pas le droit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits. Il devra donc impérativement s'éloigner d'une distance de 3 tfachim pour creuser ce puits, comme si son voisin en avait un. Alors la Gemara précise, Besade Haasuya le Borot, s'il s'agit d'un terrain qui nécessite un puits, parce qu'il doit être arrosé tout le temps, Divrei Hakol et nos sommaires, tout le monde est d'accord que le premier voisin, donc, n'aura pas le droit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits. Il devra prendre en ligne de compte la possibilité que son voisin aussi voudra creuser un puits pour les mêmes besoins. Kipligé, quand est-ce qu'il discute? Besade, Shena, Suya, le Borot. Dans le cas d'un terrain qui ne nécessite pas de puits, c'est-à-dire d'un terrain qui n'a pas besoin d'être arrosé tout le temps. Et l'un des voisins veut creuser un puits. Abaye Amar Somer, Abaye dit que le premier peut se rapprocher de la bordure de son terrain, Deha Ena Asuya le Borot, parce que de toute façon, ce terrain ne nécessite pas de puits. Par conséquent, le premier voisin n'aura pas besoin de prendre en ligne de compte la possibilité que le second veuille aussi creuser un puits. Et si le deuxième voisin voudra quand même creuser un puits, il devra laisser une distance de Sit Fahim, donc de 60 cm, entre les deux puits. Rava Amar, Eno Somer, ce premier voisin n'aura pas le droit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits. Il devra donc s'éloigner d'une distance de 3 tfachim, donc de 30 cm, de la bordure de son terrain. Déamarle, parce que le second voisin peut dire au premier, Kehechi de'at imlechat vechafar, de la même manière que tu as changé d'avis et tu as creusé un puits, bien que ton terrain n'en avait pas besoin. Ananami mimlachna vechafarna, moi aussi je risque de changer d'avis et de vouloir creuser un puits, bien que mon terrain n'en a pas besoin à présent. Ikar d'Amré, il y a une deuxième version de cette discussion entre Abaye et Rava, qui dit comme suit, Besade Shena Asuya le Borot, lorsqu'il s'agit d'un terrain qui ne nécessite pas de puits, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'être constamment arrosé, Divrei Hakol Somer, selon tous les avis, donc soit Abaye, soit Rava sont d'accord, que le premier voisin pourra se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits, parce qu'il n'a pas besoin de prendre en ligne de compte que son voisin veuille aussi creuser un puits. Qui plié, où est-ce qu'il discute? Besade Haasuya le Borot, dans le cas d'un terrain qui nécessite un puits, parce qu'il a constamment besoin d'être arrosé. Abaye Amar Somer, Abaye dit qu'il peut quand même se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits, à Filou les Rabanan, même selon les Chachamim, qui disent plus loin, dans la Mishnah d'Af Kafé Amoudbet, Marchikin et Ha'ilan Minabor Esrim Vechameshama. Il faut éloigner un arbre d'un puits d'une distance de 25 coudées. Et cela parce que les racines de l'arbre qui peuvent s'étendre sur une distance de 25 coudées endommageront le puits. Nous voyons donc que les Chachamim sont stricts concernant les précautions qu'une personne doit prendre pour ne pas gêner ses voisins, parce que ses racines atteindront cette distance de 25 coudées que beaucoup plus tard. Quand même, ils seront d'accord que le premier voisin aura le droit de creuser un puits, même au bord de son terrain. Et cela parce que Hatam, là-bas, concernant l'arbre qui doit être éloigné du puits, ou de Beidna de Kanata, est à le bord. C'est parce qu'au moment où celui-ci plante son arbre, le puits existe déjà. Il doit donc prendre des précautions pour ne pas l'endommager. Avalacha, mais ici, dans notre cas, Beidna de Kachafar, au moment où le premier voisin vient creuser son puits, l'est à le bord. Le puits de son voisin n'existe pas. Il est donc impossible de lui défendre d'utiliser son terrain comme il l'entend, lorsque son voisin ne peut pas être gêné dans la situation actuelle. Verava Amar, Rava quant à lui dit, Eno Somer, le premier voisin n'aura pas le droit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser son puits. Il devra donc s'éloigner d'une distance de 3 tfachim, comme nous l'avons dit. Verra Filou le Rabbi aussi, et même selon l'opinion de Rabbi aussi de Amar, qui dit justement plus loin d'Af Kafé Amoudbet, concernant l'éloignement de l'arbre d'un puits, Zé Chofer Betorchelo, Vezé Notea Betorchelo. Celui-ci creuse chez lui, et celui-ci plante son arbre chez lui. En d'autres termes, celui qui plante son arbre n'a pas besoin de prendre de précautions pour ne pas gêner le puits de son voisin, parce qu'il est impossible de lui défendre de planter des arbres chez lui. Et si le propriétaire de puits se trouve gêné par les arbres de son voisin, c'est à lui de s'en éloigner. Nous expliquerons l'opinion de Rabbi Yossi par la suite. En tout cas, nous voyons que Rabbi Yossi est beaucoup moins exigeant concernant les précautions entre voisins. Quand même, selon Rava, il sera d'accord que le premier voisin n'aura pas le droit de creuser son puits à la bordure de son terrain. Et cela parce que, quand est-ce que Rabbi Yossi dit que chacun agit chez lui, donc il n'y a pas de précautions à prendre? Hatam de Beidna de Kanata, c'est lorsque cette personne plante son arbre, Litnehu le Sharashav de Maskela le bord. Les racines qui endommageront le puits de son voisin n'existent pas encore. Ce n'est que par la suite qu'ils pousseront. C'est pour cela donc, selon l'opinion de Rabbi Yossi, le propriétaire de l'arbre n'a pas de précautions à prendre et c'est au propriétaire du puits de s'éloigner s'il se trouve gêné par l'arbre de son voisin. Aval Hacha, mais ici, à Marley, le deuxième voisin peut dire au premier, Kol Mara ou Mara de Kamachiat, chaque coup de pelle que tu donnes pour creuser ton puits, Kamar Pitla le Harai, ameublit mon terrain, ce qui m'empêchera de creuser un puits par la suite. En d'autres termes, c'est en creusant ton puits que tu causes déjà des dégâts dans mon terrain. Je suis en droit de te le défendre. C'est-à-dire, en fait, l'opinion de Rabbi Yossi est qu'une personne doit prendre des précautions pour ne pas gêner son voisin, uniquement lorsque les dégâts sont immédiats et directs. C'est pour cela, dans le cas de l'arbre, où les dégâts ne sont pas immédiats et pas directs, le propriétaire de l'arbre n'a pas de précautions à prendre. Alors qu'ici, lorsqu'il s'agit de creuser un puits, les dégâts sont directs et immédiats, parce qu'en creusant son puits, il fragilise le terrain de son voisin. C'est pour cela donc que même Rabbi Yossi sera d'accord que celui qui veut creuser un trou devra s'éloigner de la bordure de son terrain pour ne pas endommager le terrain de son voisin. Tnan, il a été enseigné dans notre Mishnah. Lo yarpor adam bor samuch le borosh el chavero. Un homme n'aura pas le droit de creuser un puits à proximité du puits de son voisin. Comme le précise le Tosfot, la Gemara fait maintenant abstraction de l'imprétation de la Mishnah que nous avons donnée plus haut. Alors, la Gemara déduit, Tama de Ikabor, ce n'est que parce qu'il existe le puits de son voisin que le second n'a pas le droit de creuser un puits sans s'éloigner. Ha, le Kabor, mais si son voisin n'avait pas de puits à proximité de la bordure de son terrain, sommaire, il aurait eu le droit de creuser son puits en se rapprochant de la bordure de son terrain. Alors, Bish Lama le Hachlishna, on peut bien encore comprendre selon la version d'Amard qui dit, Besade Shena Souya le Borot, dans le cas d'un terrain qui ne nécessite pas de puits, parce qu'il n'a pas besoin d'être constamment arrosé, d'ivra kol somer, selon tout le monde, celui qui veut creuser son puits peut se rapprocher de la bordure de son terrain. Alors Matnitin, notre Mishnah parle d'un cas Besade Shena Souya le Borot, d'un terrain qui n'a pas besoin de puits. Et c'est pour cela donc que lorsque son voisin n'a pas de puits à proximité de la bordure de son terrain, celui-ci pourra creuser son puits tranquillement. Et là, le Hachlishna de Amart, mais selon l'autre version qui dit Besade Shenasuya le Borot Pligé, que la discussion entre Abaye et Rava porte dans le cas d'un terrain qui ne nécessite pas de puits parce qu'il n'a pas besoin d'être constamment arrosé, mais dans le cas d'un terrain qui nécessite un puits, tout le monde sera d'accord qu'il est interdit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits. Alors Bishlama et Abaye, on comprend bien encore selon l'opinion de Abaye qui dit que justement dans ce cas où le terrain ne nécessite pas de puits, il est permis de se rapprocher de la bordure de son terrain lorsque son voisin ne possède pas encore de puits. Nicha, nous pouvons comprendre la Mishnah qu'il s'agit effectivement d'un cas donc d'un terrain qui ne nécessite pas de puits et le premier aura le droit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser son puits. Et là, les Rava, mais selon l'opinion de Rava, qui interdit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits, même lorsqu'il s'agit de terrain qui ne nécessite pas de puits, Kashia, nous avons une question, comment comprendre notre Mishnah, qui a l'air de permettre de creuser le premier puits à proximité de la bordure du terrain? L'agma répond, Amar lecha Rava. Rava te répondrait, Haïtmarala, voici qu'il a été dit pour interpréter notre Mishnah, Amar Abaye vitema Rav Yehuda, Mikotel Boroshaninu. Lorsque la Mishnah conclut en disant qu'il faut s'éloigner du mur de son voisin d'une distance de 3 tfachim pour creuser un puits, en fait, la Mishnah voulait parler de la paroi de son puits. Et comme nous l'avons expliqué plus haut, de là nous avons appris que le premier devait aussi s'éloigner de la bordure de son terrain d'une distance de 3 tfachim. Donc en fait, au contraire, nous pourrions même prouver d'ici l'opinion de Rava, selon laquelle même le premier devait s'éloigner de la bordure de son terrain pour creuser son puits. Ika de Amré, il y a une deuxième version qui ramène cette question qui a été posée à partir de notre Mishnah. Alors, le Bach insère ici l'enseignement de notre Mishnah. Tnan, il a été enseigné dans notre Mishnah. Lo yarpor adam bor samuch le boro shel chavero. Un homme n'aura pas le droit de creuser un puits à proximité du puits de son voisin. Veitmar ala, il a été dit là-dessus pour interpréter donc la Mishnah. Lorsque la Mishnah conclut en disant qu'il faut s'éloigner du mur de son voisin pour creuser un puits, d'une distance de 3 tfachim, en fait, la Mishnah voulait nous dire qu'il faut s'éloigner de la paroi du puits de son voisin d'une distance de 3 tfachim. Comme nous l'avons expliqué plus haut, cela voulait nous enseigner que le premier devait aussi s'éloigner de la bordure de son terrain d'une distance de 3 tfachim pour creuser son puits. Alors, Bishlama Leach Lishna, on comprend bien encore selon la version de Amart qui disait Besade Haasuya le Borot dans le cas d'un terrain qui nécessite des puits parce qu'il doit être constamment arrosé d'ivré à Kol et Nosomer. Selon tous les avis, soit donc Abaye, soit Rava seront d'accord qu'il est interdit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits. Matnitin Besade Haasuya le Borot. Nous pourrons dire que notre Mishnah parle de terrains qui nécessitent des puits parce qu'ils doivent être constamment arrosés. Et c'est pour cela donc qu'il est interdit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits. Et là, le Hachlishna, mais selon l'autre version, Dehamart qui dit Besade Haasuya le Borot Pligé, que dans le cas de terrain qui nécessite des puits, il existe une discussion entre Abaye et Rava, alors que dans le cas de terrain qui ne nécessite pas de puits, tout le monde sera d'accord qu'il est permis de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits. Alors, Bishlama, le Rava, on comprend bien encore selon l'opinion de Rava qui dit qu'il est interdit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits, au moins dans le cas de terrain qui nécessite des puits. Nicha, nous pouvons comprendre notre Mishnah. Nous pouvons dire qu'il s'agit donc d'un terrain qui a besoin d'un puits parce qu'il doit être constamment arrosé. Et c'est pour cela donc qu'il doit s'éloigner de la bordure de son terrain pour creuser son puits. Et là, les Abaye, mais selon l'opinion de Abaye qui dit qu'il est permis de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits, même lorsqu'il s'agit de terrain dans lequel le puits est nécessaire. Kashia, nous avons une question, parce que c'est Abaye lui-même qui a interprété notre Mishnah en disant que la Mishnah venait nous enseigner que même le premier devait s'éloigner de la bordure de son terrain pour creuser son puits. Nous avons donc une contradiction entre les différents enseignements de Abaye. Amar lecha Abaye, Abaye te répondrait Matnitin Shebaou Lachpor Bebatachat. Notre Mishnah parle d'un cas où les deux voisins sont venus creuser ensemble. C'est pour cela donc qu'ils devront partager l'éloignement. Chacun devra donc s'éloigner de la bordure de son terrain d'une distance de 3 tfachim. Et comme nous l'avons dit plus haut, la Mishnah a choisi ce cas pour nous enseigner que l'épaisseur de la paroi d'un puits est de 3 tfachim. Mais effectivement, lorsque c'est un seul des voisins qui vient creuser un trou, alors que le second n'avait pas manifesté son intention de le faire aussi, donc le premier pourra tranquillement se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser son puits. Et lorsque le second viendra aussi creuser un puits, il devra s'éloigner d'une distance de 6 tfachim, comme le précise le Tosfot. En l'Agmara dit, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta. C'est là, Haba Be'adaim, s'il s'agissait d'une roche friable, Zechofer Boromikan, Vezechofer Boromikan, celui-ci pourra creuser son trou de ce côté, donc dans son terrain, et l'autre voisin pourra creuser son puits de ce côté dans son terrain. Cependant, Zemarchik Shloshat Fachim Vesad Besid, celui-ci devra s'éloigner d'une distance de 3 Fachim de la bordure de son terrain, et il devra enduire les parois de son puits avec de la chaux. Et lorsque le second viendra creuser son puits, il devra aussi s'éloigner de la bordure de son terrain d'une distance de 3 tfachim, et en plus il devra enduire les parois de son puits avec de la chaux. En tout cas, nous voyons donc dans cette braïta que même le premier qui venait creuser son trou devait s'éloigner de la bordure de son terrain pour creuser son trou, contrairement à l'opinion de Abaye. L'Akma répond, Babi Adaim Shani. Lorsqu'il s'agit d'une roche friable, c'est différent, parce qu'en creusant son puits à la bordure de son terrain, non seulement il fragilise le terrain de son voisin, mais en plus, il risque d'en faire effondrer une partie. C'est pour cela donc qu'il devra impérativement s'éloigner de la bordure de son terrain pour creuser son puits. En Lagmar demande, « Ou de Karela, Mai Karela, qu'est-ce que cette personne qui a posé cette question pensait ?» Il est évident que le fait qu'il s'agisse d'une roche friable est différent, et au contraire, on devrait prouver de là que c'est seulement parce qu'il s'agit d'une roche friable que même le premier devait s'éloigner de la bordure de son terrain d'une distance de 3 tfachim, mais sinon, il pouvait se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser son puits, donc ce qui serait une preuve pour l'opinion de Abaye. L'Agmar répond, nous ne pouvons pas prouver d'ici l'opinion de Abaye, parce que nous pourrons dire que même lorsqu'il ne s'agit pas d'une roche friable, il sera interdit de se rapprocher de la bordure de son terrain pour creuser un puits. Cependant, la Braïta a eu besoin de nous enseigner un chidouche spécial concernant la roche friable. Salkadata Hamina, on aurait pu penser qu'il vint de Babi Adaim, puisqu'il s'agit d'une roche friable, libaena mirav khatfe, qu'un écart plus grand entre les deux puits est nécessaire. Donc plus que sitfachim. Kamash malan, c'est pour cela que la Braïta nous enseigne qu'un écart total de sitfachim est suffisant entre les deux puits, même lorsqu'il s'agit d'une roche friable. Nous avons fini ici le shiur de Bava Batra Daf Yudzain. Nous commençons le shiur de Bava Batra Daf Yutret. Nous commençons Daf Yudzain Amudbet à la dernière ligne en bas de la page. Nous avons entamé le sujet concernant les précautions qu'une personne doit prendre pour ne pas gêner ses voisins. Nous avons vu donc dans la première Mishnah qu'une personne doit éloigner son puits du puits de son voisin pour ne pas l'abîmer. Il doit aussi éloigner certains produits toxiques comme les déchets provenant de la pression d'olive ou le fumier d'un mur de briques pour éviter de l'endommager. Alors la question s'était posée dans la Gemara, est-ce qu'il est permis de négliger ces précautions enseignées dans la Mishnah lorsque le voisin n'a pas encore creusé de puits ou n'a pas encore construit de mur? Nous avons vu là-dessus deux avis. Nous avons l'avis de Abaye qui permet de négliger ces précautions, et cela même selon les Chachamim qui sont stricts concernant les précautions qu'une personne doit prendre pour ne pas gêner ses voisins. En effet, les Chachamim exigent de la personne qui veut planter un arbre de s'éloigner du puits de son voisin d'une distance de 25 coudées pour ne pas que les racines qui pousseront par la suite endommagent le puits. Donc bien que les Chachamim sont stricts concernant les précautions qu'une personne doit prendre pour ne pas gêner son voisin, mais cela n'est que lorsque dans la situation actuelle, le voisin sera gêné par ce qu'il fait. Mais lorsque le voisin, dans la situation actuelle, ne sera pas gêné par ce qu'il fait, il n'y a pas de précaution à prendre. Nous avons vu l'opinion de Rava, qui rend ces précautions obligatoires, même si le voisin ne sera pas gêné dans sa situation actuelle. Parce que par la suite, lorsqu'il construira son mur, ou lorsqu'il creusera son trou, il sera gêné par les actions de son voisin. Alors Rava dit cela, même selon l'opinion de Rabbi aussi qui est moins stricte concernant les précautions qu'une personne doit prendre pour ne pas gêner ses voisins, parce que, en effet, Rabbi aussi permet à une personne de planter un arbre dans son domaine sans laisser l'écart de 25 coudées entre le puits de son voisin, parce que les racines qui endommageront ce puits n'existent pas encore, le dommage n'est donc pas direct et n'est pas immédiat. Mais dans le cas de la personne qui veut creuser un puits à proximité de la bordure de son terrain, même Rabbi aussi, selon l'opinion de Rava, l'interdira, parce que le fait de creuser fragilise le terrain de son voisin. Les dégâts sont donc directs et immédiats. Alors, la Gemara va maintenant amener plusieurs Mishnayot ou Braytot de ce Perek pour prouver l'une des deux opinions. Alors, la Gemara dit, Tashma, viens écoute une preuve de notre Mishnah qui dit, Marchikin et a gefet vet a zevel, il faut éloigner les déchets provenant de la pression d'olive et le fumier.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.